Bienvenue sur le podcast Secrets de Management. Et si le management était tout simplement l'application de méthodes humaines, simples et pragmatiques? Je suis Nandi Dossou, fondatrice du cabinet Excellence Conseil, cabinet qui accompagne les managers start-up et scale-up à développer l'excellence managériale. En d'autres termes, j'aide à l'acquisition et à l'ancrage de compétences managériales clés qui créent du résultat, favorisent l'épanouissement et permettent de réussir l'ambition. L'objectif du podcast, vous partager des méthodes managériales simples, humaines, parfois marrantes, mais qui sont redoutablement efficaces pour réussir son management. Vous êtes prêts? Let's go! Bienvenue sur l'épisode 7 de Secrets de Management. Je suis très heureuse de vous retrouver. Il se trouve que cette série sur la gestion des conflits est la série la plus écoutée en ce moment depuis le lancement du podcast. C'est-à-dire à quel point la capacité à gérer des conflits est importante pour chacun d'entre nous. Alors, chose promise, chose due, je disais dans l'épisode de la semaine dernière que nous parlerions aujourd'hui des moments où le mode de résolution de conflits est approprié. Donc, à quel moment faut-il rivaliser? À quel moment faut-il collaborer? À quel moment faut-il chercher un compromis? Et à quel moment faut-il céder ou éviter le conflit? On y va! Quand et comment rivaliser? Déjà, on rivalise lorsque on est sur des questions vitales où la collaboration n'est pas possible. Ok ? La collaboration n'est pas possible. On est sur des questions vitales. Et ça veut dire quoi une question vitale ? Bah, déjà, première des choses, quand vous savez que vous avez raison. Je donne un exemple. On doit réduire le budget recrutement. Et chaque manager doit identifier comment réduire les coûts de recrutement et peut-être donc réduire même le nombre de recrutements à avoir. Vous êtes manager, vous savez pertinemment que si vous n'arrivez pas à recruter une personne, ça va juste être la catastrophe dans votre équipe avec un effet boule de neige, même des départs, parce que la charge de travail sera excessive. En face de vous, vous avez un ou plusieurs managers qui eux aussi vont défendre à quel point ils ont besoin de recruter. Mais le budget n'est pas extensible. Chacun doit faire des efforts. Si vous savez que pour vous, c'est vital, c'est à ce moment-là qu'il faut rivaliser. Parce que si vous ne rivalisez pas, la conséquence va être terrible. Et vous savez, vous avez les faits, vous pouvez le documenter, c'est très clair. Il faut rivaliser aussi lorsqu'on vous attaque. Vous êtes en réunion et vous êtes attaqué. Votre personne est attaquée. Alors, l'attaque n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un donne un avis sur une initiative que vous avez réalisée ou quelqu'un de votre équipe. L'attaque, souvent, est très personnelle. D'accord ? On attaque qui vous êtes. Vous avez ce sentiment d'être humilié ou que votre réputation est entachée. Il faut rivaliser. À ce moment-là, on ne laisse rien passer. Parce que pourquoi votre personne est importante ? Vous êtes important. Ne laissez personne vous diminuer, vous êtes important. Ok ? Donc, il y a plusieurs raisons, je donne les deux principales. Vous savez que vous avez raison, on vous attaque. Et dernière chose, lorsqu'il y a besoin d'une action rapide et décisive, on n'a pas le temps d'attendre, c'est urgent. Vous savez, quand c'est urgent, on décide. Alors, bien sûr, pour pouvoir le faire, c'est important d'actionner des compétences comportementales. Et je vais vous en donner deux. On ne peut rivaliser sans être persuasif. Donc, c'est important de savoir être persuasif. Et vous allez me dire, mais Nandi, comment on est persuasif? Ben, déjà, pour pouvoir être persuasif, c'est important de savoir approfondir un travail préparatoire. On ne peut pas être persuasif sans les faits. Il y a un manager que j'ai eu et il a changé toute ma vie parce qu'il m'a dit, et ça a été un des mottos d'ailleurs dans mon management, qui est de dire que les perceptions peuvent être fausses, mais c'est très difficile de contredire les faits. Et donc, lorsque vous savez que vous allez rivaliser, c'est important d'avoir les faits bien au clair. Vous devez avoir un travail qui est préparé, vous vous appuyez sur des fondements. Vous ne rivalisez pas juste parce que vous avez de l'ego. On rivalise parce que les faits sont clairs et on peut les exposer, on peut les faire comprendre. D'accord ? Et on est persuasif quand on sait expliquer nos motivations et quand on sait faire appel aussi aux préoccupations communes. On utilise nos motivations, les préoccupations communes pour pouvoir justement expliquer pourquoi la décision qu'on prend est importante. Deuxième compétence comportementale pour rivaliser, c'est savoir imposer une décision. Alors, quand on dit imposer une décision, ça n'a rien à voir avec de l'autoritarisme. C'est juste savoir décider pour faire respecter votre autorité, récompenser les comportements à récompenser, mais aussi se rassurer que les manquements ne passent pas inaperçus. Il y a des conflits qui peuvent émerger, par exemple, dans votre équipe parce qu'il y a une personne qui a une attitude de star ou de starlet. Et cela crée des frictions. Vous ne pouvez pas juste laisser passer ces choses parce que vous ne voulez pas imposer votre autorité. Pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut que les principes de cette équipe soient respectés. Donc si une personne cause des frictions, même si c'est la meilleure personne de l'équipe avec toute la connaissance qu'il faut, il est important de savoir imposer une décision pour arrêter justement ces conflits. Si vous voulez aller plus loin dans le développement de vos compétences comportementales, sachez que vous pouvez réserver un audit managérial avec moi et on pourra explorer ces éléments ensemble. Alors, quand collaborer ? Là, on vient de voir un tout petit peu quand rivaliser. Quand collaborer ? Eh bien, on collabore déjà sur les questions importantes. Ça veut dire quoi ? On collabore lorsque les préoccupations de chaque partie en conflit sont cruciales. Vous vous rappelez de l'exemple que j'ai donné du manager Customer Success qui vient se plaindre auprès du manager commercial, des clients qui résilient parce que ce n'étaient pas les bons clients qui ont été signés au départ. On est sur des questions cruciales. Une entreprise a besoin de signer de nouveaux clients, mais elle a aussi besoin de les conserver. Donc ces deux managers ont des préoccupations qui sont cruciales. Et ces deux managers sont mesurés finalement sur les deux éléments qui les opposent, l'acquisition de clients et la rétention de clients. Ces questions cruciales demandent de collaborer. On ne va pas essayer de dire qui a tort, qui a raison. On a besoin de collaborer pour que, justement, on puisse trouver le meilleur moyen d'acquérir les clients, donc d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais aussi de les retenir. On collabore également lorsqu'il y a besoin de trouver des nouvelles idées à partir de perspectives différentes. On doit réfléchir à un produit à lancer. On doit réfléchir à une initiative, à un projet transverse. C'est important de collaborer, même si on peut ne pas être d'accord, mais c'est important de collaborer parce que ce sont des questions importantes et cruciales. Alors, pour collaborer, bien entendu, il y aura besoin aussi de compétences comportementales. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a l'épisode des 4 savoir-faire du manager compétent. Je parle à ce niveau-là de justement la compétence collaborer. Donc vous pouvez aller réécouter cet épisode et essayer de voir ce que vous pouvez en tirer pour mieux collaborer. Je vais ici parler de 2 compétences qui sont importantes dans le cadre du conflit, de compétences comportementales. La première compétence qui va permettre de collaborer de façon efficace, c'est le ton qui convient. Adopter le ton qui convient, adopter la posture qui convient. Qu'est-ce que j'entends par ton et posture ? Pour pouvoir collaborer, c'est important d'avoir un savoir-être. On ne peut pas collaborer en prenant quelqu'un de haut, en le méprisant. Mais on va pouvoir collaborer en utilisant le « nous », en démontrant par le ton et la posture qu'on a qu'on veut collaborer. Et la deuxième compétence pour pouvoir collaborer, c'est de savoir identifier les préoccupations sous-jacentes en fait. Et là, on en revient au chemin du conflit, au niveau du « i ». Lorsqu'il y a de l'incompréhension, on recherche à se comprendre. Pour pouvoir collaborer, c'est important de comprendre les préoccupations sous-jacentes. Pourquoi c'est un problème ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Quelles sont les aspirations ? Quels sont les objectifs ? On se met dans les chaussures de l'autre. Et quand on a cette compétence-là, ça devient très simple de pouvoir clarifier les préoccupations pour pouvoir justement en déduire les solutions qui s'offrent à vous. On en arrive au troisième mode qui est de chercher un compromis. On fait des compromis sur des questions qui sont significatives lorsque rivaliser et collaborer ne sont pas applicables. Rappelez-vous, quand on cherche un compromis, cela veut dire qu'on va faire des concessions. Donc on va arriver à une solution qui résout le conflit, mais qui ne prend pas en compte tous nos besoins. Donc quand on sait qu'il y a besoin d'aller vite, par exemple, sur une question importante, c'est le moment de chercher un compromis. On a besoin d'aller vite parce que collaborer prend du temps. On peut aussi chercher un compromis quand on a besoin d'une solution temporaire. On sait qu'on ne va pas pouvoir solutionner cela maintenant, donc on peut choisir une solution temporaire. On cherche un compromis lorsque des modes qui sont plus affirmés peuvent nuire à la relation. Pour pouvoir chercher un compromis, quelles compétences on a besoin ? Déjà, on a besoin de savoir faire des concessions. Voilà. Savoir faire des concessions est une compétence. Deuxième chose, on a besoin de savoir se concentrer sur l'équité. Qu'est-ce qui est juste ? Et en fonction de ce qui est juste, choisir la solution la plus juste possible. Quand éviter ? Déjà, on évite un conflit, on n'évite pas les gens. On a besoin des gens, en fait, pour travailler. On évite des conflits quand on sait qu'on est émotionnellement très touché. Si vous savez que vous allez rentrer dans une arène avec une colère incontrôlable, vaut mieux éviter. D'accord ? Vaut mieux aller digérer, se préparer et revenir. Mais en fait, on va éviter les conflits où honnêtement, on a peu de choses à gagner. En fait, ça ne sert à rien. Je vous donne un exemple. Vous êtes le manager de l'équipe relations clients et puis vous êtes en conflit avec le manager de l'équipe facturation. Le manager de l'équipe facturation estime que c'est à vous de faire les relances clients lorsque les factures ne sont pas payées. Quand eux, ils envoient déjà la première facture, c'est pas à eux parce qu'il y a beaucoup de facturation à faire et vous, vous estimez que c'est pas à vous. Honnêtement, si vous vous rendez compte que vous n'avez rien à gagner parce qu'en fait, lorsqu'une facture n'est pas payée, vous avez la possibilité d'automatiser les relances de paiement de facturation de par les outils qu'utilisent vos équipes en relation client. Franchement, vous pouvez vous dire, bon écoute, j'évite même d'arriver dans ce conflit parce que ça ne sert à rien. Donc, quelles sont les compétences comportementales pour éviter ? C'est savoir prioriser. Quand on se rend compte que ce n'est pas important et que c'est inutile, on laisse tomber. On n'a pas besoin, on évite en fait, parce que ça va nous perdre du temps, c'est pas important. On évite aussi pour briser le cycle de la colère et de toutes sortes d'émotions qui ne vont pas permettre en fait une résolution effective du conflit. À quel moment céder ? C'est vrai, à quel moment on cède ? Et c'est vrai que l'exemple que je viens de donner entre manager de la relation client et la facturation, on pourrait y voir aussi le fait de céder. Hein, puisqu'on se dit, bon, c'est tellement pas important, je peux le faire, je rentre même pas dans l'arène. Mais on cède déjà en faveur d'une meilleure position. Quand vous êtes persuadé que céder de toute façon est la meilleure façon de résoudre la situation, vous cédez. Par meilleure façon, j'entends par cela que vous savez que la personne, par exemple, avec qui vous êtes en conflit en sait plus. Et quand vous l'avez écouté, vous vous rendez compte que, bon, peut-être que vous n'aviez pas réalisé toute l'importance de ce problème-là et qu'en réalité, finalement, céder serait la meilleure solution à prendre. Vous cédez aussi lorsque vous perdez. Vous êtes en train de défendre quelque chose et vous perdez. Par exemple, vous êtes en train de défendre une enveloppe d'augmentation. Vous êtes en train de défendre une promotion. Vous perdez. Parce que ce n'est pas entendable, parce que ce n'est pas le moment, parce que vous êtes en minorité, vous vous êtes surpassé, vous perdez, vous cédez. Et puis, cédez lorsque la décision de votre chef prévaut contre vous. Si vous êtes en train de vous battre pour quelque chose et puis finalement, votre responsable, il est vraiment contre cette idée, cédez, passez à autre chose. Alors, quelles sont les compétences comportementales pour céder ? Déjà, c'est savoir semer pour l'avenir. Il ne faut pas voir dans le fait de céder, le fait de perdre. On cède parce qu'il y a d'autres guerres à gagner. Donc c'est juste semer pour l'avenir. Et puis, savoir céder avec grâce. Ça veut dire quoi? Ne pas être mauvais perdant. D'accord? Vous vous êtes battu. Vous voyez que vous n'y arrivez pas. Vous expliquez vos motivations pour expliquer pourquoi vous vous battiez dans ce sens et vous cédez avec grâce. Nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère que cela vous a donné de la clarté sur quand et quel mode utiliser pour résoudre des conflits. Je serai très heureuse d'avoir vos feedbacks. Dernière chose, si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify, je serai très heureuse de pouvoir lire vos appréciations. Donc, s'il vous plaît, pendant l'écoute, merci de noter cet épisode et de me donner aussi votre appréciation. À très vite. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que vous avez pu tirer de cet épisode une idée, une stratégie ou tout simplement une joie particulière qui va faire la différence pour vous et vos équipes. Si vous aspirez à un management centré sur l'humain, qui crée du résultat, donne du sens et produit de l'épanouissement, j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez réserver un audit managérial offert avec moi-même. Allez sur bit.ly/HELLONANDI et je me ferai un plaisir de vous rencontrer. Je vous dis à la semaine prochaine.